Avant de trouver ma place dans l'engagement avec mes différents projets, une question m'obstinait. Comment faire de mon métier un vecteur de transition sociétale? Comment avoir un impact et faire ma part au quotidien? Si vous écoutez Nouvel Oeil, vous vous posez certainement aussi ces questions-là. Et si j'ai choisi la Green Management School pour soutenir mon podcast, c'est parce que ça peut réellement vous aider à vous y retrouver. Se former au métier de la transition écologique, ce n'était pas si accessible il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est tellement que l'on ne sait plus qui croire, quelle formation entreprendre, ni ce que ça vaut. Alors j'ai fait les recherches pour vous, et j'ai trouvé l'école que j'aurais tant aimé faire il y a quelques années, quand j'étais paumée. Des cours approfondis sur le climat, la biodiversité, l'agronomie, la géopolitique, mais aussi sur les modèles économiques vertueux. Le tout dispensé par des spécialistes et des personnalités inspirantes. Créer un autre lendemain que celui qui s'annonce, c'est leur mantra. Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref. Autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
En fait, je préfère me mettre dans mon insécurité la plus profonde qui soit. Et en fait, j'ai questionné à chaque fois, mais pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi tu fais ça? Et après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Et je suis sûre, et peut-être dans quelques années on en reparlera, qu'il y a un lien énergétique à l'eau, qu'on est complètement tous reliés par l'eau.
L'eau est notre bien commun, indispensable aux humains, à tous les écosystèmes et à l'ensemble du vivant. Naturellement, l'eau chemine à l'intérieur d'un grand cycle fermé et infini. Mais ça, c'était avant que les humains ne mettent à leur service l'eau douce partout sur la planète. L'eau pour boire, l'eau pour irriguer, l'eau pour produire de l'énergie, l'eau pour transformer ou pour fabriquer. Alors pour faire fonctionner notre système économique, on pompe massivement et on rejette là où ça nous arrange. On détourne les cours d'eau, on endigue les rivières, on construit des barrages et des retenues, on bétonne les zones humides, on déforeste à tour de bras, on pollue, on modifie le climat. Mais on a oublié que l'on appartenait à un cycle de l'eau qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, et surtout, plus grand que tous les intérêts économiques. L'eau est une ressource de plus en plus fragile. Elle se raréfie ou au contraire, détruit tout sur son passage. Interroger notre gestion de l'eau est aujourd'hui une nécessité pour la préserver. Avec Charlène Descollonges, on questionne l'eau, ses enjeux, ses compositions, ses énergies et sa préciosité. Charlène est douce et fluide, un peu à l'image de l'eau. Avec elle dans cet épisode, on parle d'eau, d'énergie et de cycle. J'espère que cette écoute te reconnectera au cycle de l'eau.
Voilà. Est-ce que c'est là, parfait. C'est bon?
C'est génial.
Parfait.
On y va?
C'est parti.
Salut, Charlène.
Salut, Victoria.
On est au Festival de la décroissance dans les Deux-Sèvres. Charlène, tu es une spécialiste de l'eau. Ingénieure hydrologue, tu as piloté des études sur le partage de la ressource en eau, la gestion stratégique et la gouvernance de l'eau pour des collectivités locales, notamment. Tu as aussi cofondé l'association pour une hydrologie régénérative qui vise à restaurer le cycle de l'eau à l'échelle des territoires. Je vais m'arrêter là pour ta petite présentation parce qu'elle pourrait être aussi très très longue. Donc Charlène, on va commencer dans le vif avec la question d'introduction du podcast. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui?
Merci beaucoup pour cette introduction. Eh bien la vie, elle m'a appris que l'eau, c'est la vie. Que la vie est née dans l'eau et que on a besoin d'eau pour vivre 3 jours sans eau et on meurt. Donc les premières formes de vie terrestre sont nées dans cette soupe primitive il y a 3,8 milliards d'années. Donc vraiment, on dépend de l'eau. On dépend vraiment de l'eau et pourtant on s'est coupé de cette ressource vitale. Donc depuis toute petite, en fait, je m'intéresse à cette ressource en eau précieuse.
Comment on en vient à s'intéresser à l'eau quand on est petite?
Alors, par chance, en fait, déjà, quand on habite proche d'une rivière, proche d'un lac, un étang, on est proche de cet environnement-là. Alors, on n'a pas tous la même envie de connaître, en fait, comment fonctionne l'eau. Moi, j'ai mon frère qui était et qui est toujours pêcheur à la mouche. Et en fait, avec lui et aussi ma petite sœur, en fait, on regardait les rivières, on regardait les poissons, comment ça fonctionne, etc. Et puis, j'ai toujours, en fait, cherché à comprendre. Par nature, je suis comme ça. J'ai voulu chercher à comprendre. Bon, voilà, l'eau, c'est comme ça. J'ai appris à nager toute seule. Je parlais aux rivières, je parlais à la mer. J'avais 5 ans, je parlais toute seule. Ouais, c'était un peu...
impressionnant.
Un peu, on me prenait pour une enfant, voilà, créative. Mais très rapidement, j'ai développé ce lien subtil avec la rivière et avec l'eau et j'ai cherché à la comprendre. Donc, je cherchais à lui parler aussi quelque part. Et bon, j'étais bonne à l'école, je me débrouillais. Donc, on m'a dit fais S, j'ai fait S. J'ai découvert après dans mes études les sciences de la Terre, comment en fait la Terre en est arrivée là où elle en est, le changement climatique, l'humanité, etc. Et rapidement, j'ai découvert l'hydrologie et j'ai dit c'est ça que je veux faire, je veux devenir médecin des rivières. Et c'est à partir de là que j'ai fait des études en hydrologie, école d'ingénieur, ensuite conseiller les élus sur la stratégie de l'eau.
Mmh, oui, tu as fait des études donc d'hydrologie à Montpellier.
Oui.
Et donc aujourd'hui, tu es ingénieur en gestion des risques et des crises à l'école des mines d'Alès. Oui. Tu l'es toujours ?
Alors, j'ai étudié là-bas.
Oui.
À la base, j'ai fait donc un master hydrologie. J'étais tellement passionnée par mes études qu'on m'a proposé un double diplôme avec l'école des mines. Et donc, je m'étais intéressée à la question des risques d'inondation, puisque le sud de la France, on le connaît, c'est très, très risqué oui. À ce niveau-là. Et après, la vie m'a amenée à Annecy. Je suis arrivée en montagne, donc au bord de ce lac magnifique, qui a priori ne manque pas d'eau, mais on a quand même des enjeux de l'eau, et proche d'Annecy, donc sur le bassin de l'Arve, qui est la rivière, le fleuve qui part du Mont Blanc jusqu'au Rhône à Genève, là aussi il y a des problèmes de gestion de l'eau, donc c'est ici que j'ai vraiment compris que l'eau c'était stratégique et politique.
Et est-ce que c'est ici aussi que tu t'es dit que tu allais dédier ta vie entière au sujet de l'eau ? Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment où tu as senti une bascule de « ok, l'eau, ça sera en fait le centre de mes prochaines années » ou est-ce que ça s'est fait naturellement sans que tu le conscientises vraiment ?
Ça s'est vraiment fait ça s'est joué sur les bancs de la fac. À partir du moment où j'ai compris comment ça fonctionne, le petit cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau, les enjeux, que ça allait être hyper stratégique. Et je pense effectivement sur ce territoire de montagne qui est a priori pété d'eau, il y a de l'eau partout, dans les glaciers, dans la neige. Même ici, on est hyper vulnérable au manque d'eau, au trop d'eau. Et il y avait un vrai sujet. Donc ouais, non, c'est à partir de là que je me suis dit, je vais dédier toute ma vie à l'eau. Ouais. Et pas que l'eau en tant que telle, mais vraiment toutes les formes de vie qui en dépendent.
Mais ce qui est beau, c'est que tu n'as pas eu envie de dédier ta vie au sujet de l'eau par peur d'en manquer et dans l'urgence du fait qu'on va en manquer, mais plus par passion réelle de ce qu'est l'eau, vu que déjà depuis toute petite, tu parlais à l'eau et tu avais vraiment ce lien très profond à l'eau. Pour toi, l'eau, qu'est-ce que c'est ?
Alors, bon, je vais dire de manière scientifique, très rationnelle, l'eau, c'est un fluide ou ça peut être aussi solide, gazeux, tout dépend de son état. Dans le monde, elle est essentiellement liquide et on la voit sous forme liquide. J'ai une révélation, on va dire, il y a quelques mois, une bascule qui a fait complètement changer mon paradigme et ma manière de voir l'eau. Finalement, l'eau, elle est pas tant liquide que gazeuse. On a beaucoup d'eau qui est aussi contenue sous forme d'évapotranspiration.
Oui.
En fait, c'est les végétaux et les arbres et les forêts évapotranspirent le 2/3 des précipitations continentales. C'est-à-dire que toutes les pluies qui nous tombent sur la tête, c'est grâce aux arbres. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Pour répondre à ta question, c'est... Je considère l'eau comme un élément vital, mais qui regorge de mystères. On en apprend encore tous les jours. Et je suis sûre, et peut-être dans quelques années, on en reparlera, qu'il y a un lien énergétique à l'eau, qu'on est complètement tous reliés par l'eau.
En fait, on est composé d'eau. Donc, quand on voit, par exemple, que la lune a un impact sur les marées, sur les animaux, naturellement, ça a forcément un impact sur nous aussi en tant qu'humains.
Mmh, tout à fait. Notre corps est constitué à 65% d'eau, le sang en fait. Et j'ai appris quelque chose aussi, j'ai conscientisé quelque chose, c'est que notre corps ne stocke pas l'eau. En fait, okay. on a évidemment, notre corps est constitué d'eau, mais notre corps est fait pour que l'eau transite. C'est-à-dire qu'on est fait de notre machine corporelle est faite de sorte qu'on a besoin d'eau pour vivre. Donc, on a besoin de nos 2,5 litres à boire et à manger chaque jour. Mais elle repart cette eau. Elle repart par évaporation. Elle repart dans nos urines et dans nos selles. Mais en fait, c'est surtout nous, on n'est qu'un passage pour l'eau. L'eau transite. Et en fait, c'est hyper intéressant. Je m'intéresse de plus en plus à la manière dont on peut faire des comparaisons entre nos hydrosystèmes et notre corps. Mmh. Comme, par exemple, les rivières, qui sont ce qu'on appelle les hydrosystèmes. Donc, les rivières, c'est tout ce qui permet de transiter l'eau, les éléments, les nutriments, etc. Moi, je compare beaucoup les rivières à notre système sanguin. Si on les obstrue, si on les bloque, on construit des barrages, on crée des méga-bassines, etc. Ouais. Et ben, on les empêche de circuler. On empêche l'eau et le flot de passer. Et c'est exactement avec la même chose avec notre corps. Si on bloque un vaisseau sanguin ou une artère, on meurt. Donc, on doit vraiment traiter nos rivières comme on traite nos propres corps.
Mmh, de façon cyclique aussi.
Tout à fait.
Tout comme on fonctionne en cycle, notamment chez les femmes. Quel lien, justement, tu pourrais faire entre les cycles féminins et l'eau?
Alors l'eau, déjà, on l'a dit, suit un cycle. Je trouve que l'eau, c'est une ressource dont on parlait très peu jusqu'à maintenant. Peut-être aussi en lien, si on prend du recul, avec beaucoup de choses qui étaient ramenées au patriarcat et à l'identité masculine, tandis que l'eau, je le vois comme ça, mais c'est ma perception, apporte beaucoup plus de douceur, de féminité, de maternité. Et c'est pour ça que je l'incarne aussi, parce que je trouve que par la voix des femmes, on parle beaucoup d'eau. Enfin, les femmes parlent de l'eau. D'ailleurs, en fait, dans certaines tribus ou peuples autochtones, c'est la corvée des femmes, c'est d'aller chercher de l'eau, c'est de laver. En fait, on a un lien à l'eau, les femmes, qui est très fort. Et aussi, je pense par nos cycles menstruels, on évacue des déchets par le sang. Et en fait, on a un lien à l'eau qui est vraiment très très fort et très très viscéral. Et en fait, chaque être humain naît dans de l'eau, dans le liquide amniotique. Et donc, je pense qu'on a tous un lien très fort, mais le côté féminin est vraiment intrinsèquement lié à l'eau. Donc, on est passé, je pense, d'une ère du feu, une ère de masculin, à un ère plutôt peut-être féminin, où l'eau va éteindre le feu, peut-être, pour réguler et faire en sorte qu'on retrouve ce cycle de l'eau.
Est-ce que tu ressens toi-même le besoin d'aller dans l'eau, que ce soit en nageant dans le lac d'Annecy ou en allant dans l'océan ou dans la mer?
Oui, je suis partie d'Annecy malheureusement, mais je faisais des bains froids toutes les semaines parce que déjà le bain froid c'est super et oui, j'ai besoin de me connecter vraiment physiquement à l'eau, ouais, donc me baigner dans les environnements naturels tout en faisant attention de pas se baigner n'importe où. Mais oui, c'est très important d'entretenir ce lien
pour équilibrer le fameux yin et yang.
Tout à fait, oui.
Et d'ailleurs, tu crois très fort en une hydrologie régénératrice du cycle de l'eau. Pour toi, c'est quoi le cycle de l'eau?
Alors, le cycle de l'eau, c'est un grand cycle qu'on a tous appris à l'école. Dans nos schémas, on représente l'eau qui s'évapore des océans, qui va au continent et qui fait une boucle. Ce cycle-là, il est instauré depuis des millions, des centaines de millions, des milliards d'années, et il est intrinsèquement lié au climat. En fait, le climat change et la quantité d'eau douce disponible aussi. Quand on est dans un climat froid, il y a plus d'eau enfermée dans les glaces, il y a une régression marine, et inversement quand il fait chaud. Donc tout est lié au climat. Et en fait, on a complètement oublié de représenter aussi nos interactions humaines avec ce cycle de l'eau. Mmh. Donc, en fait, déjà, de base, notre perception du cycle de l'eau est fausse. Si bien qu'on a du mal à trouver des solutions adaptées puisqu'on n'a pas bien posé le problème. Donc, moi, j'essaye de dire que le grand cycle de l'eau, c'est certes un circuit qui est fermé, mais qu'on a complètement altéré par nos activités humaines. Donc là, on peut rentrer dans le détail.
Je te laisse rentrer dans les détails.
Je rentre dans le détail. Donc, il y a l'empreinte eau, qui est le flux d'eau verte, d'eau bleue et d'eau grise. Donc, l'eau verte, c'est ce que je disais, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes et dont les plantes se servent pour grandir. Et en fait, notre empreinte eau quotidienne, en moyenne, un Français, c'est entre 4000 et 5000 litres d'eau chaque jour. C'est essentiellement de l'eau verte et qui lie à notre alimentation. Parce qu'en fait, on a pris la main sur les cultures, on a pris la main sur l'humidité des sols et donc sur ce flux d'eau verte. Et on a aussi pris la main sur l'eau bleue puisqu'on surpompe dans les nappes, on surpompe dans les lacs, dans les rivières, on maltraite les rivières en les endiguant, etc. On détruit des zones humides. Bref, on a complètement artificialiser ce cycle de l'eau. Donc une fois qu'on a posé ce problème, le constat de on a artificialisé le cycle de l'eau, comment on fait pour lui rendre sa liberté? Comment on fait pour le restaurer? Comment on fait pour le régénérer? Et c'est tout le sens de l'association que j'ai créée pour une hydrologie régénérative, pour remettre du vivant et de la naturalité dans ce grand cycle.
Et j'ai appris en lisant ton livre « L'eau, fake or not », que 37% de notre empreinte d'eau que tu décrivais, elle est directement liée à la consommation de viande.
Oui.
Est-ce que selon toi, c'est inévitable de repenser notre façon de consommer pour préserver l'eau dans le futur ?
Oui, tout à fait. On n'a pas d'autre choix, en fait. Et tous les experts et les rapports, le dernier en date sur la Cour des comptes qui dit on ne peut pas faire autrement que de réduire notre demande en eau. En fait, dans mes études et dans l'écriture du livre Low Fake or Not, je me suis rendu compte que notre croissance économique allait de pair avec l'évolution des prélèvements en eau. Aussi la démographie, mais en fait, on a accéléré le cycle de l'eau, on a accéléré nos modes de vie. En fait, tout s'accélère, même le climat, enfin tout. Et là, ce qui nous est demandé de faire, c'est de ralentir. C'est le plus dur, hein. Même nous, tu vois, dans nos vies, de ralentir. Moi, la première, hein.
C'est pour ça qu'on est au festival de la décroissance pour apprendre à ralentir.
À ralentir, exactement. Il faut le faire partout. Ouais. Faut le faire sur le cycle de l'eau, faut le faire sur l'énergie, faut le faire sur nos modes de vie. Et même moi, maintenant, quand je travaille, j'essaye de ralentir, de me dire, est-ce que je vais pouvoir travailler à temps plein jusqu'à mes 65 ans? Bah non, en fait, c'est pas possible. Donc, l'eau, c'est pareil. Elle doit ralentir. On va l'aider à ralentir. On va l'aider par l'aménagement du territoire et on va aussi l'aider par nos modes de consommation. Ralentir drastiquement notre consommation de viande, puisqu'en fait, depuis 60 ans, on a doublé notre consommation de viande et on a triplé notre demande en eau avec. Parce qu'on a besoin de plus de céréales, on a besoin de déforester, sauf que si on déforeste, on altère le cycle de l'eau, etc., etc. Donc vraiment, tout est lié à l'eau, tout est lié à notre mode de consommation, à nos modes de vie.
Et l'eau sur Terre, elle est rare. On a l'impression qu'elle est abondante. Tu vois, on tire la chasse de nos toilettes, c'est de l'eau potable. Mais en réalité, il n'y a que 2,5% de l'eau sur Terre qui est douce et seulement 1% qui est accessible aux hommes. Le reste, il est notamment emprisonné dans des glaces. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon très accessible à tous en quoi l'eau, elle est menacée aujourd'hui ? Si tu as quelques grands chiffres assez clés à nous partager.
Eh ben, je reviens encore sur cette eau verte. C'est la 6e limite planétaire qui a été franchie. Donc, quasiment 20% des surfaces non gelées sur Terre voient leur humidité des sols complètement altérée. C'est l'étude de Johan Rockström du Stockholm Resilience Center qui montre ça, qui montre qu'on a complètement altéré l'humidité des sols pour deux raisons, d'une question climatique, mais aussi une question de notre usage des sols. Le fait de déforester massivement, le fait de passer d'une agriculture paysanne à une agriculture intensive, le fait de bitumer de l'étalement urbain, donc bitumer les sols, de construire des routes. En fait, on empêche l'eau de s'infiltrer. De fait, l'eau qui ne s'infiltre pas dans les sols va ruisseler et repartir trop vite à la mer. Et le problème, il est précisément là. Les agriculteurs, quand on les questionne en fait sur pourquoi vous voulez des méga-bassines, bah, ils vont dire, en fait, l'eau, quand elle tombe, elle part. Elle part, on n'a pas le temps de la rattraper, donc on va la stocker. Mmh. Et moi, encore une fois, hein, je dis, mais stockons l'eau, il faut la stocker, ok ? Faisons-le intelligemment dans les sols. En fait, c'est là le problème, c'est qu'on faut chercher à résorber vraiment tout ce qu'on a altéré. Donc, cette humidité des sols, elle est fondamentale. On a aussi cette étude qui a montré que la plupart de nos réservoirs d'eau douce superficielle, donc là tu as rappelé moins de 1% d'eau douce est accessible, dans ce 1% en fait, l'essentiel c'est des nappes superficielles et ensuite il y a les grands réservoirs naturels, les grands lacs au Canada et puis tous les lacs artificiels qu'on a construits, nos barrages, etc. L'étude internationale de ces lacs montre que pour la moitié d'entre eux, en fait, on perd de l'eau. C'est contre-intuitif. On dit on va stocker de l'eau pour en garder, mais en fait on en perd. Et ça, c'est en principe, c'est principalement lié au climat qui change. 40% c'est dû à un déficit des précipitations. Ensuite, c'est 30% lié à l'évaporation. Le fait qu'il fasse plus chaud, bah l'eau qui est stockée va s'évaporer. Donc là, on se rend compte déjà que stocker de l'eau, c'est pas si intelligent que ça finalement. Et ensuite, il y a les activités humaines qui prélèvent trop d'eau. Donc en fait, toutes les études convergent vers une sobriété des usages, sobriété des consommations et en même temps s'attaquer aux problèmes climatiques.
Et quelles peuvent être les conséquences à moyen, long terme du manque d'eau ?
Les conséquences à moyen, long terme, et ils sont déjà perceptibles sur notre territoire, hein, malheureusement, ça va être le partage de l'eau et les conflits. Ce dont les politiques parlent très peu mais qui sont pourtant dans leur conscience, c'est les migrations. Le fait d'avoir des migrations climatiques et des migrations par rapport à la question de l'eau, hein, typiquement. Il y a certaines villes qui verront des ruptures d'alimentation d'eau potable, ça veut dire qu'on va devoir migrer. Et très rapidement, en fait, ça va devenir la question centrale. Les populations qui ne pourront plus avoir accès à de l'eau vont migrer là où il y en a. Donc typiquement ces territoires de montagne où nos modes de vie ont été bercés d'illusions et utilisent de l'eau en grande quantité pour des besoins qui ne sont pas fondamentaux, se verront en face de personnes qui ont besoin d'eau pour vivre. Donc partageons la ressource en eau, mais partageons entre nous les êtres humains, mais aussi tout le vivant non humain.
Et oui.
Et c'est ça dont on parle très peu aussi, c'est laissons de l'eau suffisamment en quantité suffisante et en qualité suffisante pour les milieux aquatiques qui en ont besoin aussi et qui nous fournissent de nombreux services. Les zones humides sont incroyables. Donc on a besoin de voir les choses de manière systémique. Et moi, ma plus grande inquiétude, c'est notre incapacité à ne pas pouvoir se mettre d'accord pour partager cette ressource en eau entre nous les êtres humains, mais aussi le non humain.
Tu crois que face à une urgence, on trouvera des solutions ?
Face à l'urgence, aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, là, par exemple, les Pyrénées orientales qui connaissent une des pires sécheresses de leur histoire, ont fait le choix, justement, c'était le préfet, qui a accordé le droit de tirer plus d'eau pour l'irrigation agricole au détriment de la vie aquatique. Donc là, c'est dire, en fait, et certains élus ont assumé le fait de dire, nous, on cherche d'abord à sauver notre économie, à notre agriculture, plutôt que de sauver celle des poissons. Nous, on s'en fiche, en fait. Et là, ça pose vraiment la question de où sont nos priorités et quelle est notre conscience aussi d'appartenir à un cycle de l'eau qui nous dépasse, qui est aussi plus grand que nous, plus grand que nos intérêts économiques.
Alors comment on peut engager les citoyens dans la vie de l'eau ? Une fois qu'on a compris à quel point c'était précieux, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens ?
Alors on peut s'engager déjà en s'informant, en comprenant tout ça. Donc il y a plusieurs manières de le faire, par le livre que j'ai écrit, le cours que j'ai fait en ligne, et aussi en parler en fait autour de nous. Et ensuite, si on est motivé, on peut faire partie de ces instances de gouvernance de l'eau, les parlements de l'eau. Donc dans ces parlements de l'eau, il y a des élus locaux. Donc on peut devenir élu local pour en faire partie, c'est une très bonne chose, ce sera en 2026. Ensuite, il y a les associations environnementales et autres qui siègent aussi dans ces instances-là, qui ont leur mot à dire. Donc une fois qu'on fait partie du Parlement de l'eau, on a un pouvoir décisionnaire sur tous les projets qui vont se faire sur notre territoire. Encore faut-il qu'il existe ce Parlement de l'eau. Des fois, il n'existe pas. Ensuite, quand on n'a pas forcément le temps ou envie de faire partie de ces instances-là, on s'informe et on regarde tous les projets qui vont porter atteinte à l'eau. Donc, on participe aux réunions publiques, on fait des pétitions, on peut s'opposer à des projets qui sont très dangereux pour la question de l'eau. Et puis, on change notre alimentation, on change de vie, on ralentit, etc. pour régénérer les hydrosystèmes.
Et une chose donc que tu as bien mise en avant tout à l'heure, c'est de ralentir nos vies dans leur sens global. Chose qui est très difficile à faire aujourd'hui puisque tout nous pousse à aller de plus en plus vite. Et même, tu vois, toi, tu disais à quel point c'était difficile personnellement de mettre ça en place. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à cette injonction de faire toujours plus et cette volonté de devoir ralentir ?
C'est une vraie bonne question, hein. J'ai pas forcément la réponse, mais j'essaie de me l'appliquer à moi-même. Là, par exemple, j'ai passé une semaine à descendre la Loire à vélo, toute seule. J'avais besoin de ce temps d'introspection là et puis d'être au plus proche en fait de ce qui m'anime, donc la Loire, et à vélo, et puis bah apprendre l'autonomie en fait.
Donc
aussi.
bivouac la nuit
avec ma petite tente sur mon vélo, et à rencontrer des gens incroyables, à observer, à me reconnecter à cet hydrosystème. Donc j'essaye de le faire. Et puis après c'est un effort au quotidien en fait, c'est aussi une hygiène de vie, voilà, de faire des stages de jeunes, genre j'essaie d'en faire un par an, et puis de ouais prendre soin de soi, prendre soin des gens qu'on aime, c'est des petites choses au quotidien qui permettent de bah, ralentir, de voir qu'est-ce qui est le plus important pour moi en fait.
Qu'est-ce que ça t'a apporté cette semaine avec toi-même?
Déjà du repos mental. Le fait de pédaler toute la journée, comme marcher toute la journée, en fait, ben ouais, nos pensées au départ, c'est toujours les mêmes pensées qui reviennent. Puis au bout d'un moment, ça s'épuise, et puis on en revient à l'essentiel. À qu'est-ce qui est important pour moi, qui je suis, et quelle est ma raison d'être. Et là, bah 4 jours c'est pas suffisant, 5 jours c'est pas suffisant, donc je vais continuer, je vais essayer de le faire. Mais ça m'a apporté, ouais, ce temps de pause et de respiration pour poser ces questions-là.
Et un certain recul sur tout ce que tu fais aussi au quotidien aujourd'hui et la cause que tu défends. Oui. Tu nous parlais donc de raison d'être. Pour toi, c'est quoi?
Ma raison d'être dans cette vie, c'est de comprendre justement, comprendre et transmettre. J'ai envie de comprendre le sujet de l'eau, d'approfondir, d'aller plus loin, de donner un nouveau regard sur la question de l'eau, changer de regard sur l'eau. Donc m'intéresser à justement l'hydrologie régénérative parce que ça nous invite à changer de regard sur l'eau, notre manière de concevoir le sujet, et de transmettre. Donc aller chercher des politiques, chercher les institutionnels, les financeurs et tout le monde en fait pour justement changer de paradigme et engager tout le monde dans la défense de l'eau.
Mais ce qui est très agréable, c'est que tu le fais avec une forme de douceur. Tu n'es pas dans cette urgence liée à des injonctions ou de la colère. On voit que tu fais ça où tu tends vraiment la main, que ce soit aux politiques ou au grand public. Là, tu vois, je t'écoutais en conférence tout à l'heure. On a envie de t'écouter et tu n'es pas alarmé, même si la situation est alarmante. Pourtant, tu dis un jour, il faudra peut-être choisir entre boire ou manger. Du coup, quelle vision future tu as sur la question de l'eau?
Alors, ma vision scientifique me pousse à être très effectivement alarmiste et pessimiste. Effectivement, dans un monde à plus 4 degrés, ça veut dire chez nous beaucoup plus de vagues de chaleur, beaucoup plus donc de canicules, beaucoup plus de sécheresse, d'inondations. Donc, le futur tel qu'on nous le décrit, et la science nous le décrit, il est alarmant. Et il doit vraiment nous faire agir, nous pousser à agir maintenant, quoi. À agir, il y a un effet au départ de sidération, même beaucoup de déni, beaucoup. Et en fait, plus on parle de ça, plus il y a une montée du climato-scepticisme, c'est impressionnant.
Oui.
Malheureusement. Mais ça doit pas nous désengager, ça doit pas nous faire prendre conscience qu'on est, on est des terriens. Et en tant que terriens, on doit défendre notre terre et défendre notre eau aussi. Donc c'est dans notre droit de le faire, et moi c'est pour ça que j'engage beaucoup de citoyens, et j'essaie de donner la voix et de la parole et des infos le plus possible pour faire de l'empowerment citoyen, ouais. Et de l'amener avec de la douceur et de l'amour, parce que la haine et la colère, ça n'amène pas pour moi à de l'action qui est bienveillante et qui est constructive. Donc j'ai oublié ta question. Pardon. Pour revenir,
c'était la vision future que avais sur la question de l'eau.
Et ben voilà, d'un point de vue scientifique assez préoccupante et alarmiste, mais par contre d'un point de vue humain, je suis assez optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent, que l'humain est capable de résilience, de solidarité. On l'a vu aussi pendant le Covid, quand il y a des crises et des chocs, on est capable de solidarité et d'amour. Et donc voilà, je suis très optimiste là-dessus.
Des questions un petit peu plus philosophiques, où on va se détacher du sujet de l'eau. Je pense qu'on a fait quand même un bel état des lieux sur ce qu'il en était. La liberté, c'est quoi pour toi, Charlène?
Merci de poser la question. J'aime beaucoup cette définition de la liberté une proposition de définition qui t'est donnée dans le livre de Laurent Gounelle que j'aime beaucoup.
J'adore. Ouais.
Je sais pas si tu l'avais eu ou
pas. Non, j'arrive pas à l'avoir. Ouais. Et en réalité, il est très, très, très difficile à joindre. Il a pas de site internet avec une adresse mail directe ou un canal de contact, un formulaire.
Et ouais,
c'est bon. C'est hyper compliqué d'arriver à l'avoir.
Eh ben, Laurent, si tu nous écoutes.
Oui. Viens ici, Laurent. J'ai plein de questions à te poser.
Et moi, je serais heureuse de t'entendre. Alors, oui, on l'entend déjà beaucoup, mais effectivement, très peu, trop peu. Et dans son bouquin « Je te promets la liberté », justement, il dit que la liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de s'autoriser à... Alors, je ne vais pas pouvoir le paraphraser, mais à accepter qui nous sommes, en gros, à ne plus souffrir des souffrances, des blessures qui sont imposées par notre ego et notre être, quoi. En fait, c'est cette capacité à nous libérer de nos blessures émotionnelles. Et ça, je trouve ça puissant.
L'ego, un vaste sujet que Sébastien Boller aborde aussi dans son livre Le bug humain.
Oui, tout à fait.
Et où, en fait, il conclut en disant que une des façons de sortir de cette crise écologique, c'est de travailler tous personnellement sur notre ego. Toi, est-ce que tu avances sur ce sujet-là? Parce qu'on a tous un ego, hein.
Ouais.
Et je pense que ça demande aussi beaucoup de vulnérabilité d'y faire face et de se dire, OK, j'ai un ego et je travaille là-dessus.
Ouais.
Est-ce que tu as des temps pour travailler sur toi-même, ce fameux développement personnel qu'on aborde aujourd'hui?
Ouais.
C'est un mot bizarre, mais
mais oui, évidemment, ouais. Je pense que une vie humaine sans aspiration spirituelle est creuse et n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, on en parlait, une personne est intervenue ce matin en disant, en fait, les humains, chaque être humain cherche à donner du sens dans sa vie. Donc, ouais, cette quête spirituelle me parle beaucoup. Et j'essaye de le faire, soit en marchant dans la montagne, en me reconnectant à aux hydrosystèmes, etc. J'ai fait un travail qui relie. Je sais pas si tu connais aussi ça.
Non.
C'est un stage de 4 jours où tu travailles ton éco-anxiété. Tu prends soin de ton éco-anxiété. Donc c'est sur la base des travaux de Joanna Macy,
okay,
qui est une américaine activiste qui permet justement, et donc les mouvements Extinction Rébellion connaissent bien ces stages-là. Ça m'a beaucoup aidée. Et ouais, la question de la quête spirituelle, elle est hyper importante. Et pour la question de l'ego, moi, je pense que c'est en montrant nos vulnérabilités et en se mettant nous-mêmes dans l'inconfort qu'on arrive à se défaire de ça. Exemple, j'ai toujours voulu être la meilleure en classe, à vouloir faire tout bien mes études, à vouloir être fonctionnaire pour avoir un boulot à vie et une sécurité financière et professionnelle,
tout bien.
Et ben en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ça. Donc du coup, j'ai bifurqué et quand tu démissionnes de la fonction publique, t'es pas accompagnée, donc t'as zéro chômage, donc t'as tout ça. Et j'ai dit, en fait, je préfère me mettre dans mon insécurité profonde, la plus profonde qui soit. Et en fait, j'ai questionné à chaque fois, mais pourquoi tu fais ça? Et après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, vraiment? Et je pense qu'aussi dans ton projet, donc on va revenir un peu à toi peut-être, mais dans ton projet, tu te mets aussi dans tes zones d'inconfort justement pour enlever toutes ces couches et ces blessures et tout ce que l'ego n'aime pas en fait voir de toi et qui pourtant sont en fait dérisoires. En fait, c'est pas grave.
Ouais, donc le projet Chimla, et c'est aussi et surtout pour ça que je m'intéresse au sujet de l'eau. Puisque là, à l'heure où sera diffusé cet épisode, on sera peut-être même déjà sur la route avec Johan, donc pour réaliser un documentaire sur les enjeux de l'eau dans le monde, en rejoignant l'Inde sans avion, pour réaliser un documentaire. Et c'est vrai que c'est vertigineux, parce que je n'ai jamais réalisé de documentaire, je me lance dans un projet où il y a une page blanche, j'ai pas les compétences, et je me dis go, on y va. Et précisément, la réalisation de ce podcast, c'était la même chose. Aux prémices du podcast, je ne savais pas du tout comment conduire une interview, quel matériel utiliser, est-ce que je suis légitime ou pas. Il y a toujours cette petite voix avec ses peurs de « non mais il y en a tellement qui le feraient mieux que toi » ou « t'as pas les études pour ».
Et t'as senti que c'était juste.
C'était juste et c'était vital en fait. Je pense que j'aurais été plus mal à l'aise à l'idée de ne pas le faire que de me donner les chances de le faire, quoi. Mais c'est le travail d'une vie de se libérer de ses peurs.
C'est ça.
Tu as des peurs encore aujourd'hui ?
Oh oui.
Lesquelles ?
Ben, j'ai toujours cette question de la sécurité financière aussi, la sécurité d'une manière générale dans un monde qui s'effondre. Ouais, on a envie d'avoir notre sécurité. Moi, ce qui me fait le plus peur, je crois, dans le livre de Laurent Gounelle, j'ai mis le doigt dessus, c'est le conflit, justement. Et il y a un type de personnalité, le dernier type de l'énéagramme, qui, dans un monde qui s'effondre, et complètement là, je sais pas quoi faire, c'est horrible, et c'est la pire peur, en fait, de voir les gens s'entretuer, et notamment sur le sujet de l'eau, donc les tensions sur les méga bassines, moi, ça me freaked out, je suis complètement...
Parce qu'il y aura forcément des conflits.
Et il y en aura de plus en plus. Donc, à travers cette peur, je la transforme en, justement, en élan d'amour, de vie, d'action, pour éviter, prévenir, mais, faire face aussi à ça. Ouais.
Et puis toi personnellement, ça t'aide aussi à mieux vivre ce sujet-là. C'est vrai que je sais plus quelle phrase disait, donc de qui c'est, mais il y a une phrase qui dit on a le choix entre la peur ou l'amour.
Oui.
À vous de choisir.
Exactement. Ouais.
Toi, tu as choisi l'amour.
Et l'amour. Ouais.
Charlène, quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent? Ça peut être plusieurs conseils.
Ok. Faites quelque chose qui a du sens et vraiment. Quelque chose qui est juste, comme toi avec le podcast et ton projet de voyage qui est incroyable, et encore une fois bravo, merci pour ce que tu fais, et chacun d'entre nous en fait est un héros du quotidien. On est tous des graines de possible,
pour reprendre Camille Etienne.
Donc on peut tous germer et faire en sorte qu'un nouveau monde émerge, une nouvelle terre, comme dit aussi Eckhart Tolle. Ouais, qui parle beaucoup d'ego dans ce livre.
Énormément.
Et ouais, j'ai adoré.
Et on parle beaucoup de son livre Le pouvoir du moment présent.
Oui.
Mais Nouvelle Terre, il est encore plus puissant. Vraiment, si tout le monde avait ce livre dans ses
mains, ben voilà.
Le monde serait transformé.
Et ben, lisez le livre. Voilà.
Nouvelle Terre. Je
Nouvelle
mettrai
Terre.
Tous les liens qu'on aborde dans cet épisode dans les commentaires.
Voilà. Et puis, voilà, faites une chose qui ait du sens et n'ayez pas peur. En fait, quand on fait confiance à la vie nous amène des choses qui sont justes.
Merveilleux. Bah écoute, merci beaucoup.
Merci à toi
pour tous ces partages, Charlène. Et puis à très vite.
À très vite.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.